troisième temps de notre série consacrée à l'histoire de la bande dessinée à l'occasion de la diffusion chaque soir sur France Culture à 20h30 du feuilleton tiré du Lotus Bleu. Ce matin, eh bien justement, nous visitons l'exposition Hergé au Grand Palais. Après avoir lundi évoqué avec nos deux invités, Jean-Pierre Mercier et Chris, comment on devient respectivement historien de la bande dessinée et scénariste de bande dessinée pétrie d'histoire, puis avoir plongé hier dans le numéro du 1er avril 1971 du magazine Pilote à la recherche de la recette qui permit à un journal pour jeunes de devenir un journal prisé des jeunes adultes de l'après-68. Et avant demain de nous poser la question délicate de ce qu'est une bande dessinée d'histoire, nous vous emmenons ce matin avec Victor Massé de l'Épinay dans l'exposition Hergé qui vient d'ouvrir à Paris, au Grand Palais. Pour ce troisième temps de notre semaine consacrée à l'histoire de la bande dessinée, avec vous Victor Massé de l'Épinay, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Nous nous trouvons donc dans l'exposition qui est plus ou moins le prétexte de cet événement d'actualité, qui est donc l'ouverture de la grande exposition Hergé au Grand Palais à Paris, et alors que France Culture diffuse des nouveaux épisodes des aventures de Tintin, donc, et en l'occurrence en feuilleton, le Lotus Bleu. Nous sommes avec Cécile Maisonneuve. Bonjour Cécile Maisonneuve.
Bonjour.
Et avec Benoît Mouchard. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Mouchard. Merci d'être ici. Donc vous avez participé tous les deux au catalogue de cette exposition, qui est quand même une surprise parce que vous avez choisi une sorte de vision de rétro-planning de l'œuvre de Hergé, puisque nous commençons par la fin, c'est-à-dire nous commençons par Hergé amateur d'art. Est-ce que c'est parce qu'on est au Grand Palais et qu'il y a généralement des expositions patrimoniales d'histoire de l'art que nous commençons par ces tentatives d'art moderne ou d'art contemporain qu'a pu faire dans les années 50 et dans les années 60 Hergé?
Alors cette exposition, elle a été conçue donc en remontant le temps dans le but de décortiquer l'œuvre d'Hergé, d'en faire une espèce d'analyse qui remonte aux sources. Et il se trouve que à la fin de sa vie, Hergé a nourri une véritable passion pour l'art contemporain. Et c'est dans cette logique, sa passion pour l'art contemporain vient au début du parcours et elle se décline de plusieurs manières. D'une part au travers de ses peintures, et donc il va s'essayer à la peinture au début des années 60, mais aussi au travers de sa collection, la collection qu'il réunit, qui est une collection très audacieuse, très très avant-gardiste, et aussi bien sûr en commençant par l'Alpha Art, donc dans lequel on voit justement sa passion pour l'art contemporain se matérialiser en histoire.
L'Alpha Art, qui est le dernier album de Tintin, il faut le rappeler, inachevé. Benoît Mouchard, cette première partie de l'exposition s'appelle « Grandeur de l'art mineur ». Est-ce que cette réflexion sur l'art mineur, l'art majeur, c'est quelque chose qu'Hergé a mené, et est-ce qu'il a eu une évolution au cours de sa vie?
Oui, je pense qu'il a pris conscience très tard en fait, d'avoir pu s'exprimer personnellement à travers la bande dessinée, comme un artiste peut s'exprimer à travers sa discipline. C'est venu probablement du dialogue qu'il a pu avoir avec des lecteurs plus pointus, comme Benoît Peters, comme Numa Sadoul, comme François Rivière, comme Michel Serres, comme quelques autres. Ça vient aussi probablement de la réception extraordinaire de son œuvre, puisqu'à la fin de sa vie, il était presque canonisé, en tout cas médiatiquement, il apparaissait presque comme le double de son personnage.
Oui, parce qu'il y a une question de légitimité. Si on avance dans cette exposition, on se dit pourquoi donc commencer par une exposition sur un des papes, sinon le pape du 9e art, en se posant la question de savoir s'il était aussi un collectionneur et un amateur d'art contemporain, ces six maisons d'œuvre. Parce que tout compte fait, en exposant, comme on le voit ici, des Liechtenstein ou encore des Dubuffet, un Fontana, un Alechinski ou des Reynaud, on se dit, tiens, c'est curieux, on va vouloir faire de cet homme un amateur d'art contemporain, on va montrer combien il est amateur d'art contemporain, alors que c'est d'abord le créateur d'un art majeur qui s'appelle la bande dessinée.
Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il ne réalise pas tout de suite. Quand il se met à la peinture, on sent qu'il cherche à exprimer au travers de la peinture quelque chose peut-être de supérieur à ce qu'il pense exprimer dans la bande dessinée. Et il se rend compte très vite, en fait, que là où il a vraiment une valeur ajoutée, là où il a quelque chose à dire, c'est en bande dessinée, que c'est là qu'est son art, finalement.
C'est une sorte de malentendu, selon vous ?
Ça, je pense que à l'époque, je pense que là, il y avait un gros malentendu autour de la bande dessinée. Je pense que la bande dessinée n'avait pas le statut qu'elle a aujourd'hui.
Benoît Mouchard.
Hergé, quand il fait cette toile abstraite qu'on découvre donc au tout début de l'exposition, il est en train de se poser des questions sur l'avenir de Tintin. Il est en train de faire les bijoux de la Castafiore, en fait. Il est très difficile, après les bijoux de la Castafiore, de pouvoir continuer l'œuvre, dans la mesure où il la remet en question totalement. C'est une histoire sans aventure, sans voyage, sans véritable coup de feu, sans véritable méchant. Et les bijoux de la Castafiore, il est sans doute un des albums les moins aimés des enfants, mais c'est sans doute l'album le plus adulte. Donc c'est l'album dans lequel Hergé va mettre le plus de lui-même, au moment donc où il a un désir de reconnaissance en dehors de la bande dessinée.
Victor, essayez de l'épiner.
Alors on est dans une salle pleine d'art contemporain, on l'a dit, mais on se trouve aussi devant, j'allais dire, le fétiche Arumbaya, mais en fait c'est pas Arumbaya, c'est une sculpture Chimou, mais qui nous dit aussi quelque chose de l'intérêt d'Hergé pour l'art, puisque c'est donc le fétiche qu'on trouve dans L'oreille cassée, l'album dans lequel on va avoir cette statue reproduite à des millions d'exemplaires, enfin des milliers, avec à chaque fois un sculpteur qui casse l'oreille. C'est déjà un questionnement sur ce que c'est que l'art, sur la sérigraphie, qu'Hergé avait donc très tôt dans sa carrière.
Le sujet de l'exposition, c'est Hergé, artiste de bande dessinée. On y expose évidemment des croquis, des crayonnés, des planches originales, et aussi des albums, parce que probablement l'œuvre originale d'Hergé, bien plus que les dessins qu'il a tracés à la plume et qu'on peut voir avec du papier jauni à un format plus grand que l'impression, la vraie œuvre, elle est imprimée. C'est pas une œuvre qui est destinée à être exposée sur un mur. C'est tout le paradoxe aussi de cette reconnaissance, c'est que évidemment on est très heureux de pouvoir presque toucher Hergé dans les coulisses, de voir vraiment son trait naître, mais ce qui est vraiment essentiel pour mieux comprendre son œuvre, son travail, ce sont les albums, ce sont les livres.
Oui, tout de même, ce qui est étrange, c'est que on peut penser, on a une grande émission à France Culture qui s'appelle Une vie, une œuvre. On pourrait penser que cette exposition, c'est une vie, une œuvre d'Hergé. Or, vous faites assez l'impasse sur la vie d'Hergé pour vous intéresser plutôt à son œuvre, c'est-à-dire que vous débarrassez d'une certaine façon en ouverture des photos de la vie d'Hergé. Très rapidement, en montant l'escalier, on voit des étapes de la vie d'Hergé, mais qui sont très rapidement esquissées en quelques lignes, et d'une certaine façon vous voulez plonger dans l'œuvre plutôt que dans la vie d'Hergé.
Ça a été la volonté de cette exposition, quand elle est née, c'était de présenter une rétrospective sur Hergé, comme on peut présenter une rétrospective sur n'importe quel artiste qu'on présente ici au Grand Palais. Et donc c'est vrai que le processus créatif d'Hergé, la manière dont il travaille, c'était le but premier de l'exposition. Avec, bien sûr, on ne voulait pas nier la vie de l'artiste, mais elle arrive à, pour mieux comprendre justement l'œuvre et pas forcément pour la raconter de manière continue. Et d'ailleurs, le fait d'avoir opté pour un parcours rétro-chronologique freine un petit peu le récit d'une vie, parce que c'est très difficile de raconter une vie à l'envers, tandis que quand on part de l'œuvre, on peut décortiquer pour faire l'analyse.
Alors on va avancer, on passe devant les planches de l'Alphard, justement, qui c'est cet album ultime qui n'a jamais été terminé par Hergé, dont on se demande, quand on est amateur de Tintin, si un jour quelqu'un osera le terminer pour lui. On n'est pas dans l'Expo Bowie, il faut le dire, hein, même si on passe ici.
Hergé met beaucoup la musique pop, la discothèque d'Hergé est assez éclectique, il y a les Pink Floyd, il y a les Beatles, il y a David Bowie, Bob Dylan. C'est un homme moderne, on vient de voir des toiles abstraites, on vient de voir des choses qui ont été achetées dans les années 60 et qui étaient donc à l'époque extrêmement neuves. Toute sa vie, on le verra même d'ailleurs à la fin de l'exposition, avec des affiches publicitaires qui sont pas très éloignées du Bauhaus en fait.
Alors, on est dans la deuxième salle, donc avec déjà beaucoup de planches qui sont exposées, de crayonnés, de bleus. Et expliquez-nous ce que sont les bleus, justement, Benoît Mouchard.
Alors, en fait, la technique de coloriage des albums a été mise au point avec beaucoup de questionnements, puisque Hergé ne souhaitait pas que ce soit de la peinture qui recouvre ses dessins. Il voulait vraiment trouver une technique où la couleur serait une indication et pas vraiment quelque chose de trop présent qui empêche aussi peut-être le regard de bien sentir le mouvement, puisque je crois qu'on va en parler, mais la question au cœur de l'œuvre d'Hergé, c'est le dynamisme, c'est le mouvement, l'action du corps. Et donc Casterman et Hergé ont beaucoup cherché avant de trouver cette technique qui donc consiste à imprimer au format de l'album la planche, mais sans trait noir. Et donc toutes les couleurs d'Hergé, dans tous les albums, il n'y a aucun noir dans les couleurs. Ce sont des couleurs presque pastel, des couleurs qui ne sont pas du tout criardes, qui sont assez douces, presque estompées, et qui ne desservent jamais cette ossature du cerné, du trait, à tel point d'ailleurs qu'on pourrait presque dire que les mises en couleur d'Hergé créent un effet vitrail, c'est-à-dire qu'il y a, avec l'aspect moins figé, mais il y a vraiment ces aplats, sans aucune nuance, sans aucun dégradé, qui sont vraiment juste pour rendre la lecture plus agréable, mais pas pour indiquer réellement, d'une manière naturaliste ou vériste, la couleur.
Cécile Maisonneuve, tout de même, cela intervient à un moment où, dans l'œuvre d'Hergé, il a déjà derrière lui pas mal d'albums qu'il a déjà créés en noir et blanc. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale que cela intervient, et c'est Casterman qui lui demande de reformater ses cases, de reformater ses récits, et de diviser quasiment par deux beaucoup des histoires qu'il a déjà racontées, de concentrer son récit parce que il faut tenir en 62 pages. C'est cela, Cécile Maisonneuve ?
Oui, tout à fait. C'est un gros travail qui s'impose à lui. Ça va même rajouter encore une étape dans son processus de création. Et on comprend aussi qu'à partir du moment où il passe à la couleur, il va avoir besoin de s'entourer d'aide. Il va progressivement constituer une équipe autour de lui pour l'aider à réaliser ses albums, à passer les anciens à la couleur, donc les reformater, à créer les nouveaux. Et on est justement ici dans la salle qui est consacrée au studio Hergé qu'il crée en 1950. Et on le voit justement au travail dans cette grande photo qui nous accueille dans cette salle avec plusieurs de ses collaborateurs.
Victor Massé de l'Épinay.
Oui, dans cette salle, on aborde véritablement l'art de la bande dessinée. Tout à l'heure, Benoît Mouchard, vous nous disiez que l'échelle à laquelle il fallait envisager l'œuvre d'Hervé, c'était le livre, l'album. Là, on a beaucoup de planches exposées, et c'est quand même aussi une véritable échelle d'étude ou d'analyse de l'œuvre d'Hergé, plus que l'image, plus que la case, puisque une planche d'Hergé, c'est véritablement le mouvement. Vous en avez parlé tout à l'heure, c'est le mouvement qui se passe entre les cases. Comment est-ce qu'on peut analyser une planche de bande dessinée, qu'est-ce qu'Hergé a, sinon inventé, au moins magnifié dans sa façon de faire de la bande dessinée?
Ben, il y a cette planche très célèbre de Tintin au Tibet, qui est la planche 9, où il montre et ne montre pas une action, et il laisse aussi beaucoup de confiance au lecteur. Donc c'est vrai que la bande dessinée, elle repose sur l'ellipse. Et là, ce qui est très intéressant dans la comparaison qu'on peut faire entre le crayonné et la planche ancrée, en noir et blanc, c'est que vous vous souvenez peut-être qu'au tout début de Tintin au Tibet, dans la précipitation, le capitaine Haddock, qui a reçu quelque chose dans l'œil, monte un escalier qui croit être l'escalier de l'avion, et en fait, le fameux escalier tombe dans le vide, donc le capitaine Haddock tombe. Quand on regarde le crayonné, on constate qu'Hergé a dessiné Haddock qui tombe. On voit tout à fait l'action du capitaine Haddock, qui est donc les quatre fers en l'air, littéralement. Et quand on regarde la planche terminée, Hergé a retiré cette image. On voit bien d'ailleurs qu'il avait un doute, puisque cette image, il l'a dessinée, en fait, je dirais presque dans un repentir, en bout de planche. Dans la planche terminée, en fait, on voit le capitaine Haddock monter l'escalier, Tintin. L'enchaînement du plan donc est très brutal. Tintin l'informe attention, capitaine, vous allez tomber. J'imagine que c'est ça le dialogue. Et la dernière case,
halte, on voit capitaine, pas là, ici, l'autre passerelle, dit-il.
Voilà, merci. Et donc la dernière case, on voit le capitaine Haddock avec une hôtesse de l'air qui lui place des pansements sur le visage, et on le voit très très furieux, puisqu'évidemment son étourderie l'a fait chuter. Là, on est vraiment au cœur de la bande dessinée, c'est-à-dire que vous avez un personnage qui court, le capitaine Haddock. Et puis un blanc, un interstice dans lequel l'imaginaire du lecteur s'investit et reconstitue. Ça, c'est quelque chose qui est possible au cinéma, mais qui serait très syncopé au cinéma. Alors qu'en bande dessinée, c'est extrêmement naturel. Et Hergé a vraiment poussé ses dernières limites.
C'est ce qu'a théorisé Benoît Peters en particulier, à propos de Jacobs, qui était un des collaborateurs de ce studio Hergé à partir des années 44-45. Et donc, avec l'histoire de l'entre-deux-cases, comme disait l'ellipse de l'entre-deux-cases.
Benoît et Mouchard. Puis aussi ces fameuses images fantômes dont parlait Pierre Sterckx, c'est-à-dire des images qu'on croit avoir vues, mais qui n'existent que dans notre imaginaire.
Alors, si on avance dans cette exposition, on passe devant un film intéressant, d'ailleurs, de Michel Drucker, demandant à Hergé de s'expliquer sur son art, d'une certaine façon, en présence du cinéaste Yves Robert, qui explique qu'il y a dans l'art d'Hergé un art cinématographique. Et on arrive donc, en remontant le temps, puisque c'est le principe de base de cette exposition, en remontant le temps, sur la période où, d'une certaine façon, Hergé est déjà connu, mais n'est pas encore la vedette et la star qu'il a été à la fin de sa vie, et en particulier sur ce moment du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, sur lequel il faut tout de même s'arrêter, parce que on a toujours l'impression, Cécile Maisonneuve et Benoît Mouchard, qu'il y a une gêne des historiens de la bande dessinée, des historiens d'Hergé, pour évoquer sa proximité des années 30 autour du rexisme.
Non, franchement, si vous lisez de près les livres qui sont parus sur Hergé, l'impasse n'est jamais faite.
Hein, non, vraiment, l'impasse n'est pas faite, mais simplement dans une exposition comme celle-ci, on voit bien qu'il y a possibilité d'expliquer ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, la participation d'Hergé au soir volé, comme on le dit. Mais par exemple, on nommait ce que l'extrême droite a toujours revendiqué d'Hergé, c'est-à-dire d'avoir été ce qu'on appelle la providence des inciviques après la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire d'avoir accueilli dans son studio des gens qui avaient été plus collaborateurs que lui encore dans la Seconde Guerre mondiale, tout de même, Benoît Mouchard.
Alors pas au studio même, hein. Il y avait
d'avoir donné un petit coup de main, quoi.
Surtout d'avoir effectivement été assez fidèle en amitié, puisque je crois que Hergé, ce qui caractérise principalement son tempérament, c'est quelqu'un de très fidèle et pour qui finalement les rapports humains sont plus importants que l'idéologie, ce qui peut poser problème évidemment. Alors si on revient, parce que tous vos auditeurs ne savent peut-être pas dans le détail ce qui s'est passé, il y a un chiffre qui est quand même assez intéressant, qui est rappelé ici, c'est qu'Hergé travaille donc dans un journal catholique, conservateur, on peut même dire un journal catholique d'extrême droite, hein, oui, qui s'appelait donc le 20e siècle.
Dirigé par l'abbé Vallée.
Voilà, qui était un tirage assez confidentiel de 40 000 lecteurs par jour. Donc on voit bien qu'Hergé à cette époque s'adresse en fait à un cercle relativement restreint de lecteurs déjà convertis, si je peux dire. Quand il convertit à Tintin, évidemment. Ensuite, quand la guerre arrive, il a plusieurs propositions. Il a une proposition du Pays réel, qui est le quotidien tenu par Léon de Grelle.
Qui était un ami
Ils ne sont pas amis, ça c'est une... Alors vraiment... De Grelle racontait beaucoup de choses, c'était un grand...
Donc, il faut préciser qu'il y a
De Grelle, c'est
le fondateur du Parti Rexiste.
C'est le nazi belge.
Voilà, le nazi belge.
Complètement. Mais donc, oui, ça c'est quand même une idée reçue qu'il faut vraiment contredire, c'est que Hergé et Léon de Grelle ont été fâchés dès le milieu des années 30, oui, donc bien avant la Seconde Guerre mondiale.
Mais ils se sont très bien connus auparavant.
Bien sûr, puisque, comme je le disais, le 20e siècle était un journal très conservateur, voire d'extrême droite.
Il a une proposition.
Il a une proposition du Pays réel qu'il refuse parce qu'il ne se sent pas de travailler dans ce journal qui est pour le coup extrêmement engagé, beaucoup plus virulent. Le soir, évidemment, est sous séquestre allemand et il est en revanche sous la direction de quelqu'un qu'il aime beaucoup et qu'il connaît bien, qui s'appelle Raymond de Becker, qu'il connaît depuis le début des années 30. Raymond de Becker, c'est un personnage dont on sait de plus en plus de choses, qui était donc issu de l'action catholique de droite, proche des idées de Maurras, et qui, en fait, à la fin des années 30, va faire un voyage en Allemagne et dire des choses absolument stupéfiantes qui font froid dans le dos, comme par exemple le national-socialisme est la chose la plus importante qui soit arrivée en Europe depuis le christianisme. Donc vous voyez un petit peu l'ambiance de ce personnage qui a une trentaine d'années. Donc il est à la tête du Soir, qui donc a 300 000 lecteurs. Et on voit dans l'exposition également la page où était publié Tintin, qui est donc la page, c'était à l'époque avec le rationnement du papier, le journal ne faisait qu'un recto verso. Au verso du Soir, la page qui était plutôt destinée aux petites annonces, aux publicités, et parfois aussi à des informations très pratiques sur le rationnement et des choses comme ça, on voit que les aventures de Tintin ont une taille mais plus petite qu'un timbre-poste.
C'est un strip.
C'est un strip, mais très très petit, vraiment très très petit. Et on voit sur cette page, rappelons les noms de Sacha Guitry, de Maurice Chevalier,
Darletti,
voilà, d'autres personnages qui ont continué à travailler, Fernandel, qui ont travaillé pendant l'occupation, comme Hergé, puisque on voit bien que la fonction qu'occupe Hergé, c'est une fonction de divertissement.
Ce qui est très intéressant, c'est cette planche qui est cachée d'une certaine façon, non pas parce que vous avez voulu la cacher, mais parce qu'elle est au fond d'une alcôve, qui est une planche extrêmement intéressante, puisque c'est la planche du moment où la guerre se déclenche et où il se retrouve en train d'expliquer au lecteur du Petit XXe qu'il est obligé d'interrompre sa parution. Et donc, il explique avec force dessein, et même en s'en amusant d'une certaine façon, et je vous promets que sauf imprévu, tremblement de terre, raz-de-marée, tornade ou bombardement, vous retrouverez nos deux héros et les inséparables policiers dans notre numéro de jeudi prochain. Ça va s'arrêter tout de même, le Petit XXe, Benoît Mouchard.
Oui, bien sûr, le rationnement du papier, le fait aussi que les Allemands, évidemment, contrôlent la presse, imposent un certain nombre de restrictions dans les médias. Donc le 20e siècle s'arrête, donc Hergé est au chômage. C'est pour ça qu'il accepte aussi la proposition du soir. Et en fait, on pourrait dire aujourd'hui que c'est un peu comme s'il passait d'une chaîne de télévision très peu regardée à un média très grand public. Faut vraiment avoir cette comparaison-là à l'esprit. Je crois que c'est beaucoup plus ça qui le guide. Alors c'est vrai que Raymond Becker, il le connaît très bien. Parce que là, il y a peut-être un contresens aussi dans l'exposition. C'est qu'on voit un strip de Monsieur Belloum. Et on pourrait croire, en lisant ce strip de Monsieur Belloum qui est paru dans l'Ouest, qui est un journal que dirigeait Raymond Becker, qu'il s'agit d'un strip anti-hitlérien. Puisqu'on voit Monsieur Belloum, qui est donc un petit homme avec une moustache, comme Hergé sait bien les caricaturer, qui fait un graffiti dans la rue, mais Hitler est un fou. Alors on pourrait croire du coup que Hergé souligne le fait que le Führer, effectivement, perd la boule. Bien non, en fait c'est un strip anti-belliciste, puisque l'Ouest est un journal pacifiste. Et donc, Monsieur Belloum, c'est la caricature d'un personnage qui est un va-t-en-guerre, mais qui est un va-t-en-guerre ridicule.
Et surtout pleutre, quelqu'un qui va pouvoir insulter des gens dans la rue, mais en l'occurrence, si les Allemands sont dans la rue, il va redescendre très rapidement dans son abri pour pouvoir s'y cacher, parce que c'est trop difficile de
qu'il se vérifie confronter. Qu'il n'y a personne avant, qu'il vérifie bien au coin de la rue qu'il n'y a personne avant d'écrire son graffiti.
Alors, on voit bien donc que ce tournant, vous l'avez appelé le succès et la tourmente, Cécile Maisonneuve, parce que c'est effectivement un moment difficile. Hergé, dans une vidéo, j'ai essayé d'écouter ce qu'il dit. Je ne comprends pas ce que dit Hergé. Il dit allemand quelque part. On lui pose la question de ce qu'il a fait pendant la guerre. Et on voit bien qu'il est complètement... il a du mal à s'expliquer parce qu'il aura des ennuis à la libération et que ces ennuis vont peser sur son avenir professionnel pendant quelques mois.
Oui, tout à fait. Et dans cette vidéo, il plaide un petit peu la bonne foi d'une certaine manière, puisqu'il revendique son attachement au discours du roi et sa volonté de se remettre au travail comme le roi avait incité à le faire à l'époque.
Victor Massé Lépiné.
Le 9 mai 1940, les aventures de Tintin sont interrompues. C'est assez étonnant quand on voit la chronologie des Tintins après. On est au milieu de Tintin au pays de l'or noir, qui sera fini bien plus tard. Et quand Hergé recommence un Tintin, c'est le crabe aux pinces d'or. Et le crabe aux pinces d'or, c'est pour certains, comme par exemple Frédéric Peters, qui explique que Tintin commence avec l'arrivée... Qui commence avec l'arrivée du capitaine Haddock. C'est l'arrivée du capitaine Haddock pendant la guerre. Et c'est vraiment un basculement dans l'œuvre vraiment d'Hergé, cette arrivée du capitaine Haddock, Cécile Maisonneuve.
Tout à fait, la guerre, c'est justement pour ça qu'on a appelé cette section le succès et la tourmente, puisque la guerre pour Hergé, la période de guerre correspond à une période d'épanouissement graphique et d'épanouissement graphique et stylistique. En fait, il produit à cette époque quelques-uns de ses albums les plus classiques, le Crabe aux pinces d'or, l'Étoile mystérieuse, le Secret de la licorne. Donc on est vraiment dans une période un peu bénie pour lui, d'une certaine manière, d'un point de vue artistique.
Et il sera obligé de s'expliquer sur certains de ses dessins, on le sait. sur la caricature d'un milliardaire juif donc qui s'appelle Blumenstein, dont il changera le nom ensuite, Benoît Mouchard, et il sera inquiété, même si au bout du compte il ne sera pas donc condamné par les tribunaux de la libération en Belgique.
Oui, en fait, le dossier politique d'Hergé, les juges de l'époque ont considéré qu'il était vide, puisque effectivement, il a continué de publier pendant la guerre. Effectivement, il a publié dans l'Étoile mystérieuse une caricature très malheureuse, puisqu'elle était contemporaine des rafles.
Et un Isaac et Salomon qui débattent avec un accent de yiddish un peu prononcé, du fait qu'ils vont pouvoir tirer parti aussi de la situation.
C'est vrai, ce strip a été enlevé de l'album, donc Hergé pendant la guerre le retire de l'album, comme s'il sentait quand même qu'il y avait quelque chose qui était trop excessif peut-être. En tout cas, l'épuration en Belgique a été extrêmement sévère, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Il y a eu des condamnations à mort, il y a eu des exils, un ami d'Hergé comme Jacques Van Melkebeck, qui finalement était dans une collaboration relativement proche, il avait été journaliste. En revanche, il avait publié un article sur un compte-rendu de ce qu'on appelait à ce moment-là des terroristes, qui étaient en fait des résistants. Et donc, il a été condamné à 4 ans de prison. Donc, c'est vous dire que les juges à la libération en Belgique n'étaient pas du tout bienveillants envers quelqu'un qui avait collaboré pendant l'occupation. Il se trouve que ces juges, qui étaient donc extrêmement scrupuleux, n'ont rien trouvé contre Hergé. Hergé n'a jamais participé ni à des partis politiques, il n'a jamais participé à des meetings. Le seul reproche qu'on puisse lui faire, c'est d'avoir continué à travailler, d'avoir effectivement mis en scène un milliardaire juif dans l'Étoile mystérieuse, ça, effectivement. Mais c'est une chose que nous reprochons, nous, mais qui, rétrospectivement, à l'époque, n'a jamais été questionnée.
Et puis, à la fin de la guerre, il reçoit une proposition d'un résistant qui s'appelle Raymond Leblanc et qui, d'une certaine façon, va lui permettre de remettre le pied à l'étrier après quelques mois où il ne sait pas très bien comment il va pouvoir continuer à travailler. Et là, c'est on redescend dans la deuxième partie de cette exposition. Et comme on remonte le temps, on va pas pouvoir raconter l'après-guerre, mais on va raconter l'avant-guerre, puisque c'est le principe même de cette exposition, Benoît Mouchard et Cécile Maisonneuve, que de faire une sorte de rétroaction de l'œuvre de Hergé pour revenir justement peut-être aussi à ses origines catholiques, son scoutisme, son rapport avec le journal Le 20e siècle, donc Le Petit 20e, dans lequel il écrit avant-guerre et évidemment tout ce qui est fait autour de Cœur Vaillant, proche du scoutisme, de l'Action catholique de droite, dont vous dites qu'il est mécontent en particulier de la façon dont Cœur Vaillant traite ses dessins, puisque ce sont des dessins qui sont imprimés en... c'est pas de la bichromie, mais c'est une gamme de couleurs qui est relativement restreinte, Cécile Maisonneuve.
Oui, tout à fait. Hergé était assez insatisfait de la manière dont les dirigeants de Cœur Vaillant traitaient son œuvre. Et d'ailleurs, je trouve que c'est assez intéressant dans l'exposition de voir la différence quand il va lui-même passer ses albums à la couleur, de voir la différence de tonalité entre ce que publie Cœur Vaillant et ce que son équipe et lui vont imaginer par la suite en termes de couleurs, des couleurs qui sont très vives, très belles, alors que là, elles nous apparaissent très extrêmement ternes.
C'est aussi une façon pour vous, Benoît Mouchard et Cécile Maisonneuve, de montrer qu'il n'y a pas que Tintin dans la vie graphique, pourrait-on dire, d'Hergé, qu'il y a aussi tous les autres personnages qu'il crée pour d'autres bandes dessinées, justement dans la période qui précède la Seconde Guerre mondiale.
Alors, en l'occurrence, on est devant les pages de Joe et Zette, qui sont des personnages créés pour Cœur Vaillant.
Oui, alors souvent Hergé a dit qu'il n'aimait pas trop cette série. En fait, il faut la relire puisque elle a souvent des débuts d'histoire très brillants. Les aventures de Joëzette commencent sans Joëzette, toujours. On voit une action qui se déroule vraiment en dehors du regard des héros.
Alors, le Manitoba qui est attaqué.
Le fameux milliardaire aussi, passionné de vitesse, qui meurt dans un accident de voiture. Alors, ça dit aussi quelque chose d'Hergé, parce qu'on a dit qu'Hergé était donc effectivement issu du milieu catholique, mais c'est pas un religieux. L'œuvre principale d'Hergé, qui est Tintin, est totalement absente de toute allusion religieuse. Tintin est un héros laïque, il y a rien du tout de religieux. Et ça gênait les responsables de Cœur Vaillant, qui considéraient que c'était pas très moral, qu'un personnage comme Tintin ne réfère jamais à une autorité, qu'elle soit les parents, qu'elle soit le fait de ne pas aller à l'école, etc.
Il faut se souvenir qu'on est quand même dans cette époque de l'après-première guerre mondiale où les œuvres de l'abbé Bethléem, par exemple, sont très importantes en France, et les œuvres de l'abbé Bethléem, c'est justement de promouvoir une bande dessinée de combat, pourrait-on dire, pour la famille, pour les idées catholiques, etc., et que ces œuvres sont vendues un peu partout, y compris en Belgique, pour pouvoir influencer justement tous ces mouvements de l'action catholique, Benoît Mouchard.
Absolument, et Hergé renacle un petit peu, puisque ça ne lui plaît pas trop de faire ce genre de choses. Il dira plus tard, tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin, en citant Jules Renard, puisque Tintin n'a pas de parents, et donc il crée un papa, une maman, pour Josette. Josette, donc, sont des jumeaux, apparemment, et qui vont vivre des aventures beaucoup plus fantaisistes que celles de Tintin, beaucoup plus influencées par le roman populaire, par Paul Divoy sans doute, un peu par Jules Verne, même si Hergé a toujours dit qu'il n'avait jamais lu Jules Verne. Et en fait, ce qui gênait beaucoup Hergé, c'est qu'évidemment, bon, là, il y a des curés hein, qui apparaissent, qui rendent secours aux héros. Et puis, on voit sans cesse Madame Legrand, qui est la mère de Josette, s'éplorer, se demandant ce que font ces garnements, que vont-ils devenir, etc.
Et disant « Mon Dieu, protégez mes enfants ».
C'est vrai qu'Hergé ne se sentait peut-être pas à l'aise. Il en a dit du mal peut-être aussi, parce que la série n'avait pas autant marché que Tintin. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui la considèrent comme une œuvre mineure. Je trouve qu'il y a déployé beaucoup d'énergie et beaucoup aussi d'inventivité visuelle. On n'est pas très loin de l'humour slapstick qui est propre à Hergé dans Tintin. Par exemple, on voit ici, ça rappelle un petit peu Saint-Augan. Je ne sais pas s'ils sont des manchots ou des pingouins. Les spécialistes sont des pingouins qui se battent avec le singe Joko. Il y a des scènes de neige qui sont très très réussies. Il y a une fantaisie.
Des scènes de neige qui pourront d'ailleurs rappeler Tintin au Tibet ou d'autres scènes de neige que l'on peut analyser comme des véritables œuvres d'art, puisque ce sont souvent trois cases, dans certains cas, trois cases qui se succèdent mais qui se complètent l'une l'autre, comme vous le mentionnez dans le catalogue. Alors on va peut-être faire l'impasse sur une salle qui est très belle mais qui nous conduirait dans un autre espace du Grand Palais avec vous, Cécile Maisonneuve, pour remonter le temps justement et aller vers le début de cette exposition, puisque nous avançons dans cette émission ici au Grand Palais, pour remonter le temps vers le temps où Hergé n'était pas dessinateur que de bande dessinée, mais même peut-être pas du tout, puisqu'il est illustrateur, il est affichiste dans les années 20 et 30 en même temps qu'il lance les bandes dessinées de Tintin. Et là, effectivement, il y a tout un travail très nouveau que l'on peut voir dans cette exposition, très original, qui rapproche effectivement Hergé d'autres affichistes des années 20 et des années 30, Paul Collin ou d'autres, mais qui sont non pas belges mais français.
Dans cette salle, on découvre aussi un Hergé au-delà de la ligne claire, puisque là, on est dans un autre univers que celui de la bande dessinée, et on découvre surtout un Hergé très coloriste. On voit que ces compositions d'affiches partent presque toutes de la couleur et travaillent la couleur de manière très différente de ce qu'il peut faire en bande dessinée. On voit que c'est presque le contrepoint de la ligne claire, parce qu'on voit par exemple sur cette affiche comme la mer, on voit que la ligne est travaillée en réserve, en clair, et donc c'est vraiment presque l'opposé. On voit que les formes aussi, la voile blanche, c'est pas une forme qui est cernée par un contour noir fermé, mais c'est une plage blanche. Et si vous regardez, j'aime beaucoup cette affiche du XXe siècle que je trouve profondément originale. On voit aussi que la ligne, par exemple la ligne de la main, qui est le seul contour fermé. Pourrait se rapprocher éventuellement d'une ligne claire. D'abord, c'est une ligne rouge ici, et on voit que la couleur de la main déborde de cette ligne. Donc, on est la ligne n'enferme pas la couleur comme dans la bande dessinée.
Oui, il s'agit donc d'un crieur de journaux qui pourrait se rapprocher d'ailleurs du vendeur de chez Nicolas. Vous savez, cette affiche qu'on a beaucoup connue dans les années 30 aussi en France, avec ce vendeur qui avait des bouteilles dans chaque main. Lui, il est en train de crier donc pour l'achat du journal de tous, le plus complet, le mieux informé, le seul journal qui donne des articles émanant de personnalités des plus autorisées, appartenant à toutes les nuances de l'opinion catholique. 3 suppléments gratuits, le 20e article artistique et littéraire, votre 20e madame, et le petit 20e dans lequel justement Benoît Mouchard écrit à ce moment-là Hergé.
Oui, dessine surtout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un contraste en fait entre cet esprit très conservateur du XXe siècle et le modernisme en fait qui se dégage des choix artistiques d'Hergé. On a vu au tout début de l'exposition des toiles abstraites. Et moi, je fais vraiment un lien entre ce goût de l'art abstrait et ce goût qu'a Hergé à cette époque pour la stylisation, pour la synthèse, pour les formes, en fait. Hein. On voit bien dans ses affiches que il est beaucoup... C'est une époque où beaucoup d'affiches... Certes, il y a Cassandre, il y a Marfur, il y a Paul Colin, mais il y a beaucoup d'affichistes. D'ailleurs, Magritte lui-même est un affichiste à cette époque très, très figuratif, presque, on pourrait dire, photographique, graphique avec des effets pas toujours de très bon goût. Et là, Hergé se dégage totalement de cette tradition-là et est vraiment dans la modernité. Et on sait les revues de graphisme qu'il lisait à l'époque, on sait qu'il aimait De Style, on sait qu'il aimait Bauhaus, on sait qu'il aimait tout ça à l'époque, et on est dans les années 30. Et donc il y a un contraste assez étonnant chez Hergé entre le milieu sociologique dans lequel il baigne depuis son enfance, contre lequel finalement il n'a pas vraiment d'armes pour s'émanciper. Et puis ce goût très profond, très moderne, très contemporain qu'il a et qu'on voit en tant qu'esthète et qui s'exprime dans ses dessins.
Victor Massé-Lépiné.
Oui, vous avez évoqué, Cécile Maisonneuve, la ligne claire dont on n'a pas beaucoup parlé devant les planches de bande dessinée. Et ici, vous dites on est un peu à l'opposé de la ligne claire, mais en même temps, quelque part, c'est le sens de cette exposition. On en est aussi à la genèse, puisque on voit pas ce trait, on voit pas on voit des ombres qui sont ce qu'on ne voit pas dans la ligne claire. Mais il y a déjà là chez Hergé un souci de la composition, de l'équilibre qui va être le fondement de la ligne claire aussi.
On voit qu'il a un goût pour l'essentiel, pour des compositions très dépouillées, très simples, qui rejoint son style graphique en bande dessinée et qui rejoint aussi son goût de collectionneur. On voit qu'il est attiré par le minimalisme, par des choses très simples. On voit aussi son travail sur les lettres, qui est un travail fondamental qu'il faudrait peut-être regarder d'un peu plus près. Mais on comprend aussi, au travers de ce travail sur les lettres, pourquoi ou comment il a pu être attiré par quelqu'un comme Herbin, Auguste Herbin, qui a fait l'alphabet plastique. Donc il y a une cohérence de la personnalité d'Hergé qui apparaît aussi au travers de ces facettes qui sont beaucoup moins connues du grand public.
Oui, dans le titre même de sa dernière aventure inachevée pour Tintin, qui est l'Alphare, oui. On retrouve les lettres des débuts.
Oui, et on voit par exemple cette affiche très belle de Chevalier à la Scala, où en fait c'est quasiment de l'abstraction. Effectivement, on est dans un art qui mêle le bleu et le rouge et le noir, comme dans beaucoup de peintures de ces années 1920-1930, et le canotier, qui est une sorte d'emblème, pourrait-on dire, du travail et de la vie de Maurice Chevalier, Cécile.
Oui, tout à fait. On voit qu'il joue sur les signes graphiques et tout son travail aussi sur les logos qu'on voit dans le petit couloir qu'on vient de passer. On voit comment il travaille sur les signes qui appartiennent à notre imaginaire collectif.
Il y a une chose aussi qui me frappe, c'est l'audace. On a ici dans cette salle un logo avec donc un personnage extrêmement... presque un pictogramme, hein, un personnage qui est assis sur une plume et il y a marqué en dessous Hergé dessinateur. Quand Hergé fait ce logo, qui lui sert donc de papier à lettres, de carte de visite, il a 24 ans. Et aujourd'hui, je trouve que c'est extrêmement gonflé, en fait. C'est Hergé dessinateur, il a 24 ans, il n'a pas fait grand-chose. Il a certes fait deux ou trois aventures de Tintin, quelques affiches. Mais voilà, il y a ce côté incroyablement entrepreneur aussi chez Hergé, qui est très moderne.
Et alors, vous allez dire que j'exagère toujours avec sa proximité avec Léon de Grelle, mais c'est le moment aussi où il illustre un ouvrage sur la guerre scolaire pour Léon de Grelle.
Oui, il est effectivement. Il illustre aussi un Christ roi des affaires de Raymond Becker et un titre encore plus effrayant qui est Pour un ordre nouveau. Bien sûr, tout ça on peut pas le nier, hein, c'est évident. Mais il faudrait pas non plus penser qu'Hergé est resté figé dans ses idées toute sa vie. Ça, c'est quelque chose que je souhaite vraiment dire, c'est que on peut pas se faire une opinion de cet homme et de cet artiste en se disant que il est resté figé dans ces années entre 1929 et 1945. C'est quelqu'un qui a beaucoup évolué, et on est d'ailleurs dans une salle, là on vient de changer de salle, on est dans la salle du Lotus Bleu, qui est quand même l'album d'une prise de conscience de la différence, un album antiraciste. Moi je suis désolé, mais enfant, j'ai beaucoup plus de souvenirs de l'antiracisme du Lotus Bleu que du racisme d'autres albums, très sincèrement. Ce dialogue entre Chang, au moment où Chang est sauvé des eaux par Tintin, et où Chang et Tintin échangent sur les différents stéréotypes qui existent dans leur pays, ce qu'on dit des Européens en Chine et ce qu'on dit des Chinois en Europe, c'est fabuleux et humaniste, et pas du tout à l'image d'un Hergé intolérant, d'un Hergé raciste, etc. Donc il y a des évolutions, il y a aussi beaucoup plus, je crois, de bienveillance envers la différence dans l'œuvre d'Hergé qu'on ne le dit trop souvent.
Victor Massé-Lépiné.
Oui, vous parlez de cette rencontre avec Chang. Cette rencontre, elle n'est pas le fruit du hasard. Elle a été provoquée par quelqu'un qui, justement, demandait à Hergé d'éviter les stéréotypes, comme il avait pu en mettre dans le Tintin au Congo ou Tintin en Amérique. De grâce, éviter de nous mettre des nattes, des supplices chinois, etc. Et cette personnalité, et comme il y avait dans les soviets, évidemment, cette personnalité, c'était un prêtre, donc, qui avait des étudiants chinois et qui a demandé à Hergé de rencontrer Chang. Benoît Mouchard.
Il n'a pas rencontré que Chang. Chang est le chinois le plus important qu'il ait rencontré, parce qu'il était lui-même artiste, qui se sont vus presque tous les dimanches pendant plusieurs mois. Mais Chang est important aussi parce que, non seulement bien sûr il ouvre à une autre culture, mais il ouvre aussi à un autre graphisme. On pourrait dire, Cécile Maisonneuve pourra en parler encore mieux que moi, que le jeune Hergé donc est très influencé par, on n'en a pas parlé, le mouvement Art Déco, qui est également contemporain, hein, qui date en gros du milieu des années 20, et qui se concentre sur les formes, sur vraiment les lignes droites, sur des choses très épurées. Ça, c'est très important dans les premières années d'Hergé. Et puis, au moment où il rencontre Chang, il va s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus organique, il va représenter la nature comme il ne l'a jamais fait, grâce en fait au dessin chinois. Et les seuls cours de dessin qu'Hergé ait jamais pris, puisqu'Hergé était autodidacte, qui n'a pas fait les beaux-arts, qui n'a fait aucune école de dessin, c'est avec Chang.
Une des très bonnes idées de cette exposition, il y en a beaucoup, mais celle-ci était assez remarquable, c'est d'avoir traduit les termes chinois qui avaient été, la demande ou avec l'aide de Chang, justement, qui parsemaient, en fait.
Souvent à l'insu d'Hergé, hein, c'est-à-dire que je crois qu'Hergé ne savait pas, par exemple, qu'il y avait des slogans qui étaient en fait des slogans maoïstes, on le sait aujourd'hui. Chang est soupçonné, on n'en est pas sûr, mais est soupçonné d'avoir été un agent communiste infiltré. Voilà. Donc c'est assez drôle d'imaginer que Hergé publie cette histoire dans le XXe siècle, qui prend position pour le Japon, il faut le savoir. Donc ouais. Hergé rompt aussi la ligne éditoriale du journal en étant pro-chinois et non pas pro-japonais. Et il avait à sa côté quelqu'un qui était très habité par les idées communistes. C'est assez drôle.
C'est assez drôle parce qu'effectivement, une de ces cases où on voit une grosse voiture des années 20 en train de rouler dans les rues de Shanghai avec une mitraillette à la portière, eh bien, représente une petite affichette en chinois, et il y a marqué dessus, vous l'avez traduit ?
Boycotter les marchandises japonaises.
Ou aussi, il y a abat l'impérialisme, qui est donc évidemment anti-impérialiste.
Abolissons les traités inégaux. Il y a quelque chose d'important devant ces... Là, on est devant un mur, donc avec tous ces idéogrammes chinois traduits. On voit aussi le résultat des cases de Tintin. Et on a parlé tout à l'heure de l'importance du mouvement et de la vitesse dans les planches d'Hergé, de cet art du mouvement. Justement, c'est cette innovation graphique qu'il y a dans le Lotus Bleu, c'est des cases qu'on pourrait dire presque contemplatives, toutes de noir et blanc, en ombre et lumière. Il y en a une sur le port de Shanghai. Il y a aussi des arbres. Cécile Maisonneuve, là, on a vraiment une innovation graphique d'Hergé.
Oui, et c'est beaucoup lié justement à l'initiation artistique de Chang, qui va l'initier aux techniques et au style de peinture chinoise. Et on voit que dans cet album, il rompt un petit peu avec les précédents qui sont tout en mouvement, on voit que Tintin étant dans une sorte de mouvement perpétuel. Et avec le Lotus Bleu, Tintin commence à marcher. On voit que là, par exemple, si vous voulez bien qu'on aille voir la planche qui se trouve. se trouve ici, on voit que dans Hergé s'accordent des moments de pause, s'accordent des cases où il ne se passe rien et où la nature prend le dessus. Là, on voit, on aperçoit une montagne qui est traversée par un petit escalier qui serpente.
C'est la descente vers Oukou.
C'est la descente vers Oukou. Et au travers de cases comme celle-ci, la bande dessinée prend aussi une respiration, un rythme nouveau.
Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que remonter le temps tel que vous nous faites faire dans cette exposition Hergé, Benoît Mouchard et Cécile Maisonneuve, c'est aussi nous dire que voilà un artiste qui a retravaillé en permanence sa propre œuvre pour la rééditer, pour la éditer différemment, la mettre en couleur, ou simplement faire évoluer ses propres personnages.
Oui, ça en dit long sur la remise en question permanente d'Hergé, dont on parlait tout à l'heure à propos de ses idées, et c'est aussi le cas pour son œuvre. Alors, les choix sont pas toujours très heureux. Il y a parfois, je parle artistiquement, des décisions qui ont été prises sous la pression d'éditeurs, notamment anglais, qui a consisté à redessiner l'île Noire dans les années 60. Alors, il y a deux choses. Évidemment, l'île Noire originale était peut-être pas assez documentée, et donc l'éditeur anglais avait raison. Et puis il y avait une autre chose, c'est qu'Hergé à cette époque-là avait beaucoup de personnel, mais souhaitait ralentir sa production artistique et devait occuper son personnel et devait occuper ses assistants. Donc l'île Noire, la refonte aussi de l'or noir, c'est pas que des raisons artistiques qui ont présidé à ces refontes, malheureusement.
Cécile Maisonneuve.
Mais ce qui est, alors bien sûr l'île Noire, on a toujours une préférence pour la première édition, mais pour un historien de l'art, ce qui est quand même fascinant, c'est de voir entre l'édition en couleur de 46 et l'édition en couleur de 65, c'est de pouvoir comparer les deux versions et de voir aussi l'évolution du style d'Hergé. Et je trouve que quand on compare les attitudes de Tintin de l'une à l'autre version, on voit que Tintin a beaucoup perdu en expressivité. On voit les sourcils sont beaucoup plus lisses. On voit qu'il est plus lisse. En même temps, son corps, on le sent plus agile dans son corps. On voit que les pieds, les positions sont mieux étudiées. Et ça, c'est assez fascinant quand même de pouvoir avoir un document qui nous permette de faire cette...
C'est vrai que ça dit quelque chose sur l'évolution de Tintin. Dans Tintin au pays des soviets, on est dans la salle où Tintin au pays des soviets est évoqué. Tintin est extrêmement différent de la suite des albums. C'est un personnage assez bagarreur, assez...
Matamor,
complètement, oui. Il n'est pas encore la projection idéale de tout un chacun qu'il va être par la suite. Parce que Hergé disait souvent que Tintin n'est pas vraiment un personnage, c'est un schéma, c'est un masque, et c'est un masque dans lequel on peut tous se projeter. Et dans les premières aventures, il est assez différent. Oui, il a plus de caractère finalement.
Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on se demande, dans une exposition qui est une exposition aussi d'histoire de l'art, d'une certaine façon, Cécile Maisonneuve, ce que Hergé soi-même a retenu de ce qu'on disait à l'époque. On sait l'importance, on ne l'a pas encore cité, de Pierre Sterckx auprès de lui. Pierre Sterckx est un ami qu'il découvre, je crois, en 1965, qui va l'accompagner toute la fin de sa vie, qui va l'aider à constituer sa collection d'art moderne dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il a été accompagné, vous citiez Benoît Peters aussi, Benoît Mouchard, il a été accompagné par des gens qui ont élaboré un discours sur son œuvre. Est-ce qu'on peut savoir ce qui est la part de ce que Hergé pensait lui-même de son œuvre et de ce qu'on a dit de lui et qu'il a plus ou moins intégré au fur et à mesure du temps parce qu'il était tellement louangé, tellement couronné dans le monde entier qu'au bout du compte, il écoutait tout de même ce qu'on disait de lui.
Mais j'ai l'impression qu'il était quand même le premier surpris de ce qu'on pouvait... de ce qu'on pouvait élaborer sur son œuvre en termes de discours...
Il y a une ambivalence, hein. C'est-à-dire qu'effectivement le discours public d'Hergé est souvent extrêmement modeste. Il dit très souvent « je suis le ravi de la crèche »,« oh, j'en reviens pas », »,« je suis le pommier qui fait ses pommes ». Ça, c'est le Hergé public. Le Hergé qui s'étonne, par exemple, dans le film qu'on a pu voir tout à l'heure, qu'Yves Robert ait l'air de voir des choses très techniques dans ce qu'il fait. Sauf que quand on lit la correspondance, Hergé est très sûr de ce qu'il fait, et il sait très bien ce qu'il a fait.
Et même un peu fier de lui.
Absolument, et il a écrit très vite, très tôt, des choses très analytiques sur l'art du gag, sur ce que devait être la couleur, ce que devait être le mouvement, le fait que le texte devait sortir de la bouche des personnages, etc. Tout ça est pensé. Hergé n'est pas un intellectuel, mais c'est un cérébral, ce qui se ressent évidemment dans son dessin, qui n'est pas un dessin expressionniste, hein, c'est un dessin au contraire extrêmement retenu. Et donc, il était conscient d'avoir fait une œuvre. Et il était conscient aussi du ridicule peut-être que pouvait être un personnage comme Hergé, auteur des aventures de Tintin, qui aurait été fier de lui dans les médias. Donc il y a une très grande intelligence aussi de l'image qu'il pouvait donner, et donc une modestie pas forcée, parce que c'était quelqu'un d'assez modeste, mais une modestie de circonstance.
Alors, il y a, on est dans la dernière salle ici de cette exposition Hergé au Grand Palais, et donc on remonte le temps, comme on l'a expliqué depuis le début, et effectivement, vous avez eu l'intelligence de nous montrer des planches d'Hergé qui sont parallèles à des planches de Mac Manus, donc la famille Illico, ou encore d'Alain Satogan, pour montrer des innovations, effectivement, qu'Hergé va mettre très tôt en œuvre au point de vue stylistique dans ses planches de bande dessinée, en particulier les phylactères, plutôt que rompant ainsi avec des auteurs précédents, plutôt que de mettre des textes sous les cases, eh bien là, ce sont les personnages qui parlent, ce qui donne une dynamique nouvelle à l'action.
Oui, tout à fait. C'est ce que nous avons voulu montrer ici dans cette succession. Il y a aussi Benjamin Rabier, qui est un illustrateur qui a beaucoup compté. On voulait que les parallèles soient évidents, donc entre les animaux de Rabier, la ligne claire de Saint-Augan déjà, qu'on voit que Hergé adopte, les petits nez à la Mac Manus qu'il reproduit aussi pour Kik et Flup.
Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la grande confiance qu'Hergé a dans le média qu'il a choisi. Dans une page de Quick et Fluke, par exemple, on voit qu'il sait que la perception de l'image, elle est individuelle, c'est-à-dire vous avez un rapport à la case, mais vous avez aussi un rapport à la page. Et par exemple, il peut dessiner un personnage qui lance un lasso. La case se termine, le lasso est hors champ, mais dans la case suivante, les personnages sont hors champ et c'est le lasso qui est dans le champ et on peut comprendre l'action. Il y a aussi cette grande intelligence de lecture. C'est vraiment aussi quelqu'un qui, très tôt, d'ailleurs là on est à ses tout débuts, il a quasiment fait aucun dessin qui n'ait pas été publié. Ça c'est très curieux, c'est comme un écrivain qui n'aurait fait aucun texte qui n'aurait pas été publié. Hergé a quasiment fait aucun dessin pour le plaisir ou pour lui-même.
Merci à vous Cécile Maisonneuve et merci à vous Benoît Mouchard de nous avoir guidés dans cette exposition au Grand Palais. Donc Hergé, une exposition qui va durer jusqu'à quelle date exactement ?
Jusqu'au 15 janvier.
Merci encore.
Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Vous étiez nombreux à parler en particulier hier du documentaire que vous pouvez également réécouter autour du journal Pilote. Et demain, eh bien, nous vous parlerons toujours de bande dessinée en évoquant la bande dessinée d'histoire avec Victor Massé de l'Épinay et nos invités.